son sambales también. Azúcar.
Sí, necesito porque no lo hemos mostrado.
Sí, yo tampoco.
Para replantear su enfoque.
No, no, no.
Eso es el paso.
¿Te
gustó?
Bueno, entonces vamos a empezar para.
Bien, nous allons commencer pour avoir le temps de. Nous avons notre ordre du jour. Donc, je vais vous présenter un petit peu notre travail. Nous allons nous diviser en trois groupes. Non, pardon, nous allons diviser cette session en trois parties. Nous allons commencer par un panel sur le traité de libre-échange et l'Internet. Donc, c'est Célia qui va s'en occuper. Ensuite, nous allons avoir une section ou une annonce sur les activités des FGI et régionales. C'est Bernadette Louis qui va le faire et Fatima Cambronero, comité, la représentante du comité de l'Amérique latine, qui, elles, vont nous parler des avancées dans ce domaine. Ensuite, nous allons vous montrer les activités importantes dans le domaine stratégique. Donc, Banda et Célia, je vous donne la parole. Merci, merci beaucoup à tous pour votre présence. Merci à tous d'être ici, de participer à cette réunion. Nous n'avons pas beaucoup de temps et il y a un ordre du jour assez long, hein. Donc, je vais maintenant donner la parole à Célia qui va. Donc, Célia Lerman qui va vous présenter notre organisme. Et ensuite, je donnerai la parole à Rodrigo qui va. Et ensuite, prendre la parole. Personnellement, je ne vais pas pouvoir rester à la réunion parce que comme je suis aussi, j'appartiens aussi au comité des NOMCOM, des nominations, notre session a commencé et elle n'est pas dans cet hôtel, donc je dois partir. Une fois que j'aurai entendu Andrés, dont la présentation m'intéresse, je quitterai la salle. Merci. Célia, allez-y. Bien, bienvenue à l'espace de LAC. Vous savez que c'est un espace qui découle de la stratégie d'ICANN pour l'Amérique latine. Notre idée, c'était de créer un espace pour les parties prenantes de tout type, mais surtout les parties prenantes qui sont orientées dans le domaine du commerce. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui intéresse la région. Il s'agit des traités de libre-échange et de leur impact sur la gouvernance de l'Internet. D'abord, je veux remercier le comité, et Wanda, Gabriela Slack et Andrés Guadamus de l'Université de Sussex. Il est originaire de Costa Rica et il travaille sur les traités en Amérique centrale. Margarita Valdés va aussi nous parler de NIC Chile, de l'expérience qu'elle a eue au Chili. Et moi, je représente mon institut ici à l'ICANN. Je suis professeure de l'Université Torquato di Tella et donc je viens vous faire cette présentation en tant que telle. Bien, donc. Bienvenue à tous. Bien, nous avons quelques petits problèmes techniques. Dans quelques instants, nous allons commencer notre présentation.
Bueno, si les parece, tomamos asiento y comenzamos.
Bien, s'il vous plaît, prenez place, on commence.
Bueno.
Bien, on commence alors, hein? Donc, je vous disais que nous allons d'abord parler du traité, des traités de libre-échange et de leur impact sur les différentes politiques de l'Internet en Amérique latine et aux Caraïbes. C'est une étude que nous avons faite en Argentine avec l'Université de Pennsylvanie et Martin donc, nous aide et il est boursier et il participe pour la première fois à cette réunion de l'ICANN. Donc, c'est sa première réunion de l'ICANN. Donc, nous allons avoir trois intervenants que j'ai déjà présentés. Donc, je vais représenter hein, Andrés de l'Université de Sussex, Andrés Gadamous, expert en propriété intellectuelle et membre de Criticom. Et il s'occupe d'activités de traité de libre-échange en Amérique centrale. Ensuite, nous avons Margarita Valdés qui va nous parler de Nick Chile, qui va nous parler de l'expérience donc, du Chili. Nous allons avoir un dialogue avec ces intervenants et donc vous êtes les bienvenus hein, si vous avez des commentaires. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà, ces traités. Alors, quel est l'intérêt de ces traités, hein, de l'analyse de ces traités? Donc, à travers la conclusion de traités de libre-échange régionaux et bilatéraux depuis l'année 2003, on assiste à l'apparition de réglementations et de politiques d'Internet dans le domaine du libre-échange. Le Chili a été donc un pionnier dans ce sens avec son traité avec les États-Unis. Et ensuite, cela a continué au niveau bilatéral, comme je vous le disais, au niveau régional aussi. Et en Amérique centrale. Donc, il y a différentes clauses. Certaines clauses affectent directement les noms de domaine. Alors, dans quelle mesure le système d'adoption de résolution de différends, de litiges, hein, affecte aussi la question de who is, la base de données que doit avoir donc le bureau d'enregistrement, suite des traités de responsabilité des intermédiaires de l'Internet, surtout en ce qui concerne la propriété intellectuelle et le copyright. Et très souvent, on a répliqué, on a copié le modèle de la législation interne des États-Unis. Ces traités ont aussi des clauses de e-commerce ou commerce électronique. Une autre clause concerne la protection de données, les télécommunications. Et finalement, il y a aussi certaines exceptions, hein, par exemple pour la question de la confidentialité, on va avoir une certaine flexibilité dans l'application de ces traités ou dans les questions de législation interne. Nous vous disions donc qu'avec ces traités, qui ont commencé au niveau du Chili. Hein? Donc aujourd'hui, on a eu un mouvement général au niveau de la région et le Chili, la Colombie, la Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, l'Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama et Pérou et la République dominicaine ont tous des traités. Le Nicaragua participe à une problématique de ce type et négocie actuellement le traité de Trans-Pacific Partnership. Il s'agit d'un traité de commerce ou de libre-échange multilatéral au niveau régional. Donc, c'est un traité qui pose beaucoup de controverses de par son caractère secret. Le Chili, le Pérou participent aussi hein, à la conclusion de ce traité. Et c'est intéressant parce que pour le Chili et pour le Pérou, hein, qui ont une certaine tradition dans le domaine de ces négociations, alors que pour le Mexique, il va falloir un petit peu modifier et ce qu'il faisait jusqu'à maintenant ou s'adapter ou adapter ce qu'il faisait, leurs activités antérieures. Hein. Donc, en ce qui concerne la résolution de différends, de quoi parle-t-on? Ici, nous avons une clause modèle qui a été reprise et recopiée, hein, par exemple, L'INTA, la International Trademark Association, fait des recommandations concernant cette clause et son contenu. Chaque partie doit demander la gestion de son domaine de premier niveau de code pays et doit avoir une procédure appropriée pour le règlement de différends en se basant sur des principes établis dans l'UDRP afin d'aborder ce problème. Donc, Margarita nous racontera un petit peu plus le cas du Chili, nous parlera un petit peu plus du cas du Chili, mais ce qui est intéressant ici, c'est que dans beaucoup de cas, cela a été mis en œuvre. Et au niveau local, les gens n'étaient pas encore prêts. Ça a été mis en œuvre au niveau gouvernemental, mais au niveau local, on n'avait pas encore un système de résolution de différends. Ce qui est positif, parce que ça a été une occasion d'aborder le problème, mais ce qui est négatif ici, c'est qu'il a fallu le faire très vite. Vous savez qu'en Amérique latine, le fait de faire les choses vite fait que très souvent, on est mal préparé. Il y a des cas où on a adopté l'UDRP telle qu'elle existait, telle qu'elle était. On a eu des conversations et il y a eu un cas très intéressant qui nous a été rapporté. C'est le cas de Costa Rica qui a dû pour respecter le traité, ils ont dû adopter l'UDRP directement, sans discussion. Donc, ils ont envoyé les différends directement à Genève au niveau de l'Organisation mondiale. L'OMPI, qui est donc l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle, réglait cela. Au niveau local, il n'y avait pas de dispute parce que les parties n'étaient pas familiarisées avec un procès à Genève. Donc, pour eux, c'était très difficile de dire, OK, il faut qu'on paye quelqu'un qui va aller à Genève. Avoir un arbitre qui travaille à Costa Rica et qui travaille au Costa Rica et à Genève. C'était très compliqué. Donc, en 2012, on a commencé à avoir des négociations concernant la gouvernance de l'Internet, des gouvernances au niveau interne. Et dans ce cadre, on a formé un groupe de travail pour nommer un fournisseur dans ce cas de dispute, dans ce cas de litige au niveau local. Et aujourd'hui, donc, on a donc cette personne au niveau de l'ordre des avocats local. On a des personnes qui sont formées. Et c'est intéressant de voir donc comment ce traité a pu être mis en œuvre. S'il vous plaît, parlez un peu plus doucement parce que les interprètes ont du mal à vous suivre. Merci. Bien. Un autre cas intéressant. Et Lito Ibarra a participé et il nous en a parlé. C'est le cas du Salvador où ils ont dit nous allons mettre en œuvre ces normes, ces réglementations au niveau local à travers un fournisseur de résolution de litiges au niveau local. On va pas seulement l'envoyer à l'OMPI et on va pas seulement respecter ce traité. Mais d'après ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas encore eu de litige et donc cette mise en œuvre, ce serait intéressant d'étudier pourquoi, que se passe-t-il dans le domaine de ces litiges, si ça a été quelque chose qui a été utile pour la législation locale, pour faire évoluer la législation locale, ou si cela a été imposé de l'extérieur. Je veux ajouter aussi que dans la législation, dans la négociation de ce traité transpacifique, qui est le prochain traité à négocier, dans lequel participent le Pérou, le Chili et le Mexique, on a stipulé que l'on n'allait pas adopter l'UDRP telle qu'elle, puisqu'elle était conçue pour des litiges génériques, et on a voulu l'adapter aux litiges au niveau local, tenir compte, par exemple, des indications géographiques, des noms de commerce, et que l'UDRP ou tout autre système rapide et peu coûteux puisse être mis en œuvre. Un système qui ne soit pas trop lourd, qui soit équitable et qui n'empêche pas donc une litigation au niveau local, au niveau de la justice locale, ce qui est important vu la culture juridique en Amérique latine. Par conséquent, ce type de clause donnerait davantage de flexibilité, davantage de souplesse. Et une autre option qui a été proposée et qui est en cours de débat en ce qui concerne la stratégie régionale de l'Amérique latine, c'est que se passe-t-il si l'on crée, informe un fournisseur local pour donc s'occuper de ces questions de procédure ou de culture, puisque un fournisseur comme l'OMPI qui se trouve à Genève est un peu loin de notre culture aussi. les problèmes liés au juice. Dans le traité, on parle d'un accès en ligne à une base de données précise et fiable qui doit être donc respectée en tenant compte de la relation avec les lois de données personnelles et de vie privée, de protection de la vie privée. Certains disent que les lois liées aux données, aux coordonnées personnelles doivent être prises en compte. Par exemple, le traité du Chili propose cela. D'autres disent que ces coordonnées personnelles peuvent être prises en compte. Par exemple, les traités d'Amérique centrale avec les États-Unis disent cela. Et d'autres traités directement ne tiennent pas compte de la loi locale. Le fait d'adopter un système de WIS à travers un traité de libre-échange, le problème qu'on a, c'est le problème de souplesse que cela crée au niveau local. Lorsqu'un pays dit qu'il va accepter les lois liées au WIS, au niveau mondial, au niveau des domaines génériques, le WIS peut être modifié. Donc, il y a des pays de notre région qui se sont engagés à adopter certains systèmes à travers ces traités, et cela peut être un problème pour ces pays-là. Donc, il faudrait que tout le monde puisse prévoir une certaine souplesse dans la mise en œuvre de ces traités pour pouvoir tenir compte de standards mondiaux et qui soient appliqués dans ce pays, ce qui serait utile pour le pays. Une autre clause liée au nom de domaine, c'est une nouvelle clause qui se trouve dans le TPP, le traité du Pacifique, qui, comme je vous l'ai dit, est un traité secret, mais à travers Wikileaks, il y a eu des fuites. Donc, on a un traité qui a filtré et on a pu discuter de ce traité. Donc, la discussion a été un petit peu apportée, disons, sur ce traité, sur cette version du traité qui résultait d'une fuite. Ce qu'on dit, c'est qu'il doit y avoir des solutions efficaces contre le trafic de registres de domaines de mauvaise foi. Alors, on peut dire, s'il y a déjà eu une résolution de litige, c'est déjà une solution effective traditionnelle. Alors, quelle autre solution est-ce qu'on peut obtenir? Une solution en argent liquide? On pourrait en discuter davantage. On a des canaux multipartites pour discuter de ce thème-là. Et peut-être que ce serait bien d'avoir une discussion, un débat et portant sur ce sujet. Ensuite, nous avons des clauses, comme je vous l'ai dit, de responsabilité de fournisseurs de services Internet. Dans ce cas aussi, au Chili, il y a eu une mise en œuvre intéressante de cette clause, parce qu'au niveau local, il y a eu une discussion au Sénat. On a mis cette loi, on a appliqué cette loi avec les prévisions de la loi locale, c'est-à-dire nous n'allons pas appliquer la loi comme aux États-Unis, comme le font les États-Unis. Nous allons tenir compte de certains donc aspects judiciaires préalables. La Colombie, qui a eu le même engagement avec un traité de libre-échange au niveau local, en Colombie, on n'a pas pu appliquer cette loi parce qu'il y a une loi qui n'a pas été acceptée au niveau local pour l'application de ce traité. Donc, on continue à en discuter. Il y a aussi une question politique à cause du changement de gouvernement. On va voir à quel moment est-ce qu'on va pouvoir appliquer cette loi ou ce traité et comment, dans le cas de la Colombie. Une des questions dont je voulais parler aujourd'hui avec les participants de cette réunion, c'est dans quelle mesure les traités de libre-échange sont-ils une voie adéquate pour réglementer ces questions? Certains disent qu'on a vraiment ici l'occasion d'aborder des thèmes qui n'ont pas été abordés au niveau local. C'est une bonne occasion pour donc appliquer cette législation qui est nécessaire pour protéger le commerce et pour protéger les droits des citoyens. Mais, parallèlement, si l'on a des canaux multipartites, ne peut-on pas commencer à les utiliser dans cette discussion? Je pense que ce sera intéressant d'en tenir compte, de tenir compte des expériences des autres pays aussi pour donc l'application de ces traités et pour le débat portant sur des nouveaux traités comme le traité de services de commerce qui s'appelle le TIS. Donc, les conclusions. que je vous propose pour, avant de passer à la discussion. L'importance de la culture locale dont il faut tenir compte pour pouvoir adopter et appliquer ces traités. Il faut que ces traités soient flexibles, soient d'une certaine souplesse pour tenir compte de notre culture juridique en Amérique latine. Et il faut surtout tenir compte du système de domaine, du système de droit d'auteur et qui sont importants dans nos pays. Et puis la transparence et l'ouverture sont fondamentaux aussi dans un modèle multipartite et lié aux politiques d'Internet. Finalement, cet échange d'expériences nous est très utile pour éduquer les personnes qui négocient le traité, c'est-à-dire des diplomates qui ne sont pas toujours au courant de ces questions liées à l'Internet. Et nous devons les éduquer, nous devons leur apporter une certaine connaissance et leur montrer qu'est-ce qui est en jeu, et leur montrer l'importance et de la protection de ces données, de la protection des utilisateurs d'Internet. Bien, merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Andrés. Bien, merci beaucoup, Célia, de m'avoir invitée. Et je remercie le comité aussi. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir être ici avec vous. C'est ma deuxième réunion d'ICANN. J'avais été pour la première fois à la réunion de Costa Rica. Et c'est intéressant parce que, à l'époque, déjà au Costa Rica, ça m'avait beaucoup intéressé. Ça m'a paru vraiment des réunions émouvantes. Et je suis très contente d'être ici de nouveau. Je suis de Costa Rica. Donc, vive Costa Rica, dit-il pour les personnes qui me regardent là-bas. Lorsque je présente un travail, j'essaye toujours de présenter des excuses d'abord. Je crois que j'ai commencé à faire cela en 2006, lorsque j'ai commencé à me rendre compte que cela m'était utile de présenter des excuses. Et je crois qu'au Costa Rica, on s'excuse souvent. Et maintenant, je m'excuse parce qu'on va gagner l'Angleterre demain lors du match. Voilà. Du match de foot. Alors, donc maintenant, je vais présenter des excuses parce que cette étude que j'ai réalisée est une étude qui date de quelques années déjà. C'est une étude que nous avons réalisée dans le cadre du centre Script, études de propriété intellectuelle, à Hambourg, avec mes collègues, à Édimbourg, avec mes collègues. Et nous avons voulu préparer cette étude parce que personne ne parlait des traités de libre-échange ou de l'impact de ces traités dans des pays comme les pays de l'Amérique centrale. Et ce qui était intéressant, c'est que tout le monde parlait des traités de libre-échange avec le Chili, avec la Jordanie, avec l'Australie, avec d'autres pays. Il y a eu ensuite d'autres accords et ces traités de libre-échange avec l'Amérique centrale et la République dominicaine, on n'en a pas parlé. Et la raison pour laquelle je m'excuse, c'est que cette étude date déjà de quelques années. Elle aurait besoin d'être remise à jour. Mais bon, ça nous donne quand même une idée intéressante, une idée de base, parce que j'aimerais bien encourager la discussion au sein du groupe sur ce thème-là. Voilà, c'est cela mon objectif. Donc, le traité en lui-même a été négocié entre les États-Unis et les pays d'Amérique centrale à l'origine et il a été signé ensuite avec la République dominicaine aussi, ce traité. Hein. Et voilà, ce traité donc a été signé en 2004. D'abord avec les pays d'Amérique centrale et ensuite, la même année, la République dominicaine a aussi signé ce traité. Ce traité a été ratifié par pratiquement tous les pays dans leur totalité. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que le traité de libre-échange en lui-même vise à faire quelque chose et qui est finalement la réalité politique de ce que sont ces traités, vise à aller au-delà de ce que contiennent normalement les traités de libre-échange internationaux liés au commerce et souscrits par différentes organisations telles que l'OMC. Et donc, ce qu'on critique beaucoup à ces traités, hein, c'est qu'ils tentent de donner plus de pouvoir ou plus de protection au pays le plus puissant qui signe le traité. Il y a beaucoup de critiques dans ce sens. Il s'agit bien sûr d'une question politique. Et l'opposition à laquelle on a assisté, hein, qu'on a vu surgir dans certains pays contre la signature de ce traité, hein, surtout dans, au Costa Rica, hein, les gens qui ne voulaient pas que ce traité soit signé au Costa Rica, et ils étaient très très nombreux. Il y a eu même un vote, un plébiscite qui a été organisé. Et on a eu donc une réponse de 51 à 49%. Hein, donc, et vraiment quelque chose de très divisé. Hein, les gens, une grande quantité de gens étaient contre la signature de ce traité. Donc, hein. Mais en général, ces traités ont une structure identique. Ils parlent par exemple de des problèmes ou de thématiques liées au travail, aux télécommunications, aux droits en général. Hein. Le CAFTA, hein, le DR-CAFTA, c'est la même chose. Hein. Il aborde ce type de questions. Et c'est un traité qui comprend différents chapitres ou différentes sections qui abordent ces différents aspects. Et parmi ces aspects, on a le cas de la résolution de différends. Nous avons travaillé sur les questions de la STIC, hein, des TIC, c'est-à-dire télécommunications, propriété intellectuelle et commerce électronique. On a déjà mentionné tout cela, donc je ne vais pas le redire. En ce qui concerne les noms de domaine, on ne traite pas à fond la question des marques dans ces traités, hein, parce que tout le monde sait que les noms de domaine ne concernent pas les marques, vraiment. Mais on parle ici des procédures pour mener ces litiges, régler ces différends. Hein. Donc, on ne parle pas vraiment du thème des noms de domaine. Par contre, on inclut dans l'article 15.4, hein, dans la section de Domain Name on the Internet, on dit que les parties vont fournir des procédures appropriées ou une procédure appropriée pour régler le différend et que l'on va adopter ce système de l'UDRP. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans certains pays, par exemple au Costa Rica, on n'avait pas une culture de résolution de différends. Et donc, on a eu un problème et c'était que tous les litiges étaient présentés devant le tribunal de Genève parce qu'il n'existait pas de solution autochtone, hein, pour régler ces litiges. C'est quelque chose de très typique, hein, quelque chose que l'on critique beaucoup à ces traités. Et ce que l'on critique donc à ces traités, c'est que l'on essaye de nous vendre un modèle qui n'est pas autochtone, hein, qui ne correspond pas à la culture de nos pays. Ah, j'ai quelques points de vue à ce propos. En ce qui concerne le commerce électronique, cela a été je dirais un peu plus intéressant. Tout dépend de ce qu'on considère intéressant, mais En ce qui concerne le commerce électronique, on ne modifie pas la pratique que l'on utilisait au niveau international, par exemple dans l'OMC, que l'on utilisait jusque-là. Tous les transferts de électroniques ne vont pas être traités ou ne vont pas être sujets à des impôts ou à des taxes donc fiscales. Lorsque les produits numériques sont envoyés physiquement à et franchissent une frontière, l'article 14.3.2 stipule que l'on va taxer ces marchandises si cela est nécessaire en fonction du type de marchandises. Et ce qui compte ici, c'est que l'on a un transfert physique qui va être réalisé. Ensuite, l'article 14.3.3 et donc considère cela comme favorisé ou comme devant avoir un traitement national donc en premier lieu. Ce qui est intéressant, et c'est que ce qui est arrivé surtout avec des questions comme par exemple la responsabilité des tiers sur Internet, par exemple, hein, c'est un domaine dans lequel on constate que les États-Unis essayaient d'exporter leur modèle, leur législation, leur modèle législatif, et de les exporter vers les pays d'Amérique centrale, principalement parce que presque toute la section concernant la responsabilité de tiers sur l'Internet est reprise directement ou presque de la loi américaine qui a été traduite et qui a été appliquée à la législation nationale. C'est une partie très intéressante de cette affaire-là, parce que presque aucun des pays n'avait des dispositions, des clauses aussi fortes que cette législation américaine, parce que ce traité de l'OMPI avait des dispositions aussi très, très strictes dans le domaine du respect et de la protection des droits d'auteur.
Dans le traité, on a également discuté d'autres questions d'intérêt pour l'éthique. On a vu, par exemple, que les pénalités ou par exemple, avec la gestion des droits numériques et les mesures de protection des droits numériques, qui étaient des mesures qui existaient dans la loi américaine, ce sont des mesures qui ont été, ou des normes qui ont été appliquées aux pays de l'Amérique centrale et aussi le dédommagement. Donc, on a vu un changement que l'américanisation, soi-disant, du système juridique de nos pays pour nous adapter aux valeurs maximales des États-Unis, parce que cela a dû changer et on n'a pas modifié la loi pour ce faire. Vous voyez la même diapo que moi, je pense pas qu'on est en train de voir la même diapo. Donc, même si on pourrait dire que je suis complètement contre le CAFTA, je ne le suis pas en fait. Et je dirais même si certains des déploiements, particulièrement l'application du droit des États-Unis pour les questions très autochtones des États-Unis, un système qui n'est pas familiarisé avec ces figures. Par exemple, ce qu'on a vu par ce processus, c'est l'ouverture de certains marchés qui étaient très fermés, par exemple au Costa Rica. Parce que j'ai été là-bas pendant 2 ans. En matière de télécommunications. Donc, je critique la forme dont certaines de ces figures m'ont été présentées. Même notre nouveau président, qui s'est opposé à un moment donné à la signature de cet accord de libre-échange, c'est maintenant embarqué dans un avion pour aller direct aux États-Unis pour essayer d'attirer des investissements, pour leur dire qu'on avait signé ces accords. Donc le problème que nous avons avec cela est que La situation qu'on voit est une question politique très intéressante. Nos pays, les pays en voie de développement, parce que j'habite au Royaume-Uni, mais de toute façon, je me considère toujours du Costa Rica, bien sûr. Et notre problème est qu'on veut faire des affaires avec les États-Unis, avec l'Europe. Et pour ce faire, il nous faut accepter les conditions qu'on nous propose. Je ne peux pas dire qu'on nous impose, parce qu'on ne nous impose rien. On accepte ces conditions, mais cela arrive des fois avec des situations pour lesquelles on n'a pas la connaissance nationale dans nos pays pour pouvoir négocier un bon nombre des dispositions de ces traités. Peut-être qu'elles ne seront pas complètement bénéfiques. Je crois en termes généraux que dans la pratique, le commerce international avec les grands marchés est bénéfique pour nous. Mais on a besoin de plus de connaissances nationales et des autres pays pour pouvoir mieux négocier certaines des dispositions qui nous sont présentées. On nous propose ces solutions comme si elles étaient une panacée, alors qu'elles sont bénéfiques pour d'autres pays et pas pour nous. Et c'est quelque chose que l'on voit dans la négociation avec ACTA. Et avec le partenariat transpacifique, le Trans-Pacific Partnership, comme Célia le dit, c'est un secret et ce n'est pas très clair. Ce que j'ai lu, en fait, me met mal à l'aise de par le texte, mais lorsqu'on l'aura négocié, je suis sûre que ce ne sera plus le cas. Et c'était le cas de ACTA aussi. Lorsqu'on a vu le texte final, on l'a trouvé assez bien et on s'est dit que cela pourrait être adopté dans l'avenir et que ça n'allait pas changer les lois des États-Unis parce que, suivant les négociations, le traité nous est parvenu assez finalisé, soi-disant. Donc, je pense que, voilà, que je crois avoir fini. Merci. Célia Lerman prend la parole. Merci, Andrés, de nous avoir donné ce panorama de l'Amérique centrale. Margarita a maintenant la parole pour nous raconter son expérience à Nikchile. Margarita prend la parole. Bonjour, je suis Margarita Valdés. Je suis la directrice juridique et commerciale de Nikchile, c'est le registre de .cl, et je suis aussi membre du conseil de la CCNSO pour la région latino-américaine et des Caraïbes. Au début, l'expérience chilienne était très intéressante. C'était très intéressant de voir ce requis ou cette exigence et cette caractéristique que l'accord de libre-échange entre le Chili et les États-Unis a été le premier traité de la sorte. Donc c'était une bonne expérience. Mais il y a ici quelques aspects importants à mentionner. Pour ce qui est des noms de domaine, le Chili est un pays très développé. Lors de la signature du traité en 2003, .cl était un registre solide, fort, qui depuis 1997 avait son propre système de résolution de litiges. Il est de même intéressant de dire cela parce que à la réunion de la CAN d'août 1999 à Santiago de Chili, lorsque la CAN et la communauté de la CAN ont pu approuver les règles du DRP, .cl avait déjà ses règles de résolution de litiges. Et c'est un fait très important parce que finalement, lorsqu'on a dû faire face aux accords qui ont suivi, on avait une force qui nous venait de la communauté parce que la communauté reconnaissait ce système par une politique de résolution de litiges locales. Et c'est le système d'arbitrage que Nikchile avait mis en place en 1997. En 2000, on a modifié notre système de résolution de litiges pour ajouter la médiation comme une forme amicale de résoudre les litiges avec un coût réduit, ce qui était très important pour nous parce que la formule chilienne que l'on a à ce jour d'ailleurs, améliore les conditions par rapport au système UDRP. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un système d'arbitrage et donc qu'au point CL, les conditions de résolution de litiges, les décisions, les lodes sont émis par des arbitres qui reconnaissent la validité de cette résolution dans le système ou dans le cadre du système judiciaire national. Et donc, à différence de l'UDRP, qui est un système de panélistes, qui devrait avoir toutes les conditions pour pouvoir émettre des décisions, en fait, il résout ces litiges d'une autre manière. Et cela pourrait être révisé par un tribunal. Donc, même si les systèmes de résolution de litiges par l'arbitrage permettent aux utilisateurs de réclamer leurs droits dans leur système juridique, ils doivent fonder cet appel sur une cause qui soit différente de celle qui a été décidée pour les noms de domaine. Et donc, à propos de certaines ressources judiciaires, on a la reconnaissance de la Cour suprême qui dit que les décisions, les sanctions arbitrales de point CL sont déjà le res judicata pour ne plus pouvoir être modifiées, sauf s'il y avait un fondement pour modifier ou pour faire appel à cette décision. Donc, lorsqu'on a dû faire face à la signature de cet accord de libre-échange avec les États-Unis, d'une part, l'équipe qui négociait s'est rendu compte que c'était quelque chose de nouveau, qu'ils n'avaient jamais vu. Ils nous ont appelés à négocier avec eux pour leur dire qu'est-ce qu'il y avait dans l'industrie, ce que Nick Shilly était en train de faire et comment on pouvait unir nos critères sans perdre ce système d'arbitrage basé, donc de résolution de litiges basé sur l'arbitrage que la communauté appréciait tant. Patricio, le directeur de Nick Shilly, qui est dans la salle d'ailleurs, était un membre de l'équipe de négociation et on a pu faire comprendre aux autres qu'avec une caractéristique d'horizontalité, qui me surprend toujours, a pu négocier avec les États-Unis pour leur dire « Vous êtes le point US, on est le point CL ». C'était pas comme ça qu'il l'a dit, mais c'était le résultat. Il a dit « Vous avez l'UDRP, nous on a notre propre système local de résolution de litiges qui est une réussite et qui est sa propre valeur. » Et donc la meilleure formule serait que chacune des parties de ce contrat reconnaisse, de ce traité reconnaissent qu'ils doivent avoir son propre système de résolution de litiges et que les principes sur lesquels ils se basent soient les principes UDRP. Et finalement, c'est ça qui a été inclus dans le texte. Et on était très contents par ces résultats parce que finalement, en quelque sorte, on a pu maintenir notre système et la valeur que ce système avait pour la communauté. Et donc, pour ce qui est des noms de domaine en particulier, on était très satisfaits. Ce qui est intéressant ici est que cette disposition qu'est l'article 17 numéro 3, alinéa 3 de l'accord de libre-échange entre le Chili et les États-Unis dit que chaque partie, je vais le lire parce que je l'ai sous les yeux, attendez. Voilà. Article 17, alinéa 3 de l'accord ou traité de libre-échange entre les États-Unis et le Chili dit que chaque partie doit demander que le gérant des noms de domaine de chaque pays devra demander que l'arbitre pour sa résolution de litige établisse son propre système sur la base des principes établis dans la politique uniforme de résolution de litige en matière de noms de domaine, UDRP, pour aborder le problème de la piraterie ou les noms de commerce et les marques commerciales. Chaque partie va demander que le gérant de son propre CCTLD donne accès public en ligne à une base de données fiable et précise avec des informations de contact pour les titulaires de noms de domaine conformément à la législation de chaque partie en protégeant les données personnelles. Donc, ce qui était bien dans notre expérience, c'est qu'on a pu collaborer d'une part avec l'équipe négociatrice, ce qui était très bon depuis l'ouverture du gouvernement jusqu'au sujet même. Et puis, ce qui était intéressant de la formule qui portait sur le système de résolution de litiges a été répété, réitéré dans cette clause, dans l'accord qu'ils ont conclu avec l'Australie par la suite. Donc, c'était intéressant de voir comment cette bonne idée qui respectait les autres systèmes de résolution de litiges avec les autres pays contractants dans les accords de libre-échange avec les États-Unis puisse avoir ce genre de système. Et c'est comme ça que ce mécanisme a été répété. Maintenant, pour ce qui est du TPP, heureusement, on a eu un changement de gouvernement en mars de cette année. Et un changement très intéressant qu'il y a eu et que l'équipe de négociation du ministère d'Affaires étrangères, qui est la DIRECON, comme on l'appelle au Chili, a créé une équipe de consulteurs de la communauté, des parties prenantes et intéressées à cette matière pour le TPP. Et alors, ils ont créé une salle adjointe, comme ils l'appellent. Et donc, l'équipe de négociation du Chili face au TPP a engagé un groupe de personnes de différentes entités qui travaillent sur la propriété intellectuelle et qui conseillent et aident directement le gouvernement pour qu'ils comprennent les différentes nuances dans chaque matière et fondamentalement leur donnent davantage de documents. Parce que, par exemple, dans certains aspects, dans ce qu'a dit de la DNSI, de DNCI, et par rapport aux médecines que l'on demande spécifiquement dans cet accord du TPP, l'article qui a été inclus était identique aux normes des États-Unis de DMCA. Et donc, il était très intéressant qu'ils comprennent l'origine de cette norme et les possibilités qu'elle leur fournissait pour la contractation dans le traité du TPP. Alors, au moins, dans notre expérience, on a eu une réussite dans cette voie. Je pense que le TPP n'est pas un bon effet dans une négociation de la sorte, mais pour la communauté chilienne, on est très optimiste parce que pour ce qui est de la participation du Chili à ce traité, au moins, on considère que cela a été documenté de la meilleure façon possible et on y a participé. Merci.
Bueno, ahora tomamos un espacio de preguntas.
Celia Lerman, on va prendre des questions maintenant. Oui, Carlos. Carlos prend la parole. Merci, vous m'entendez? Je suis Carlos Aguirre. En premier lieu, soyez bienvenue à cette académie, à cet espace. J'ai adoré. Ça me fait envie de continuer de venir parce que nous commençons à apprendre non seulement sur des discussions d'autres genres, mais aussi sur ce genre de discussions qui sont très intéressantes et profondes pour ceux qui travaillons dans ce domaine. Je suis prof d'économie depuis 25 ans pour la faculté de droit de l'Université nationale de Córdoba en Argentine et ça fait un bon moment qu'on travaille sur ce type de questions. Et lorsque je voyais demander si les accords de libre-échange étaient utiles ou pas, je pensais qu'il faudrait peut-être poser d'autres questions, voir pourquoi les États-Unis sont toujours l'autre partie, ou pour qui ces traités sont bénéfiques. Et je pense que la réponse est différente selon le pays, et c'est à chaque pays d'y répondre. Il faut diviser entre États et gouvernement aussi. S'ils sont bénéfiques pour l'État ou pour le gouvernement qui signe des traités, c'est une bonne question. Je pense que c'est une question beaucoup plus profonde et que peut-être dans ces discussions qui sont brèves, on n'a pas suffisamment de temps pour voir tous les aspects, toutes les arêtes de ces questions. Je parlais avec Humberto Carrasco hier, qui est chilien et c'est le secrétaire de la région pour les utilisateurs. Et justement, à Édimbourg, il est en train d'écrire sa thèse doctorale sur l'analyse économique des événements non économiques. Donc, l'impact des événements non économiques sur l'économie. Et c'est justement droit et économie, c'est l'analyse économique du droit, une relation multidisciplinaire, c'est du droit, de l'économie et d'éthique, de la technologie. Ce sont des questions complètement pertinentes qui doivent et qui méritent d'être analysées comme vous l'avez fait. J'ai bien aimé votre présentation. Je vous félicite encore. Ça me fait envie de continuer de participer. Merci. Merci, Carlos. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose, mais c'est notre espace, LACSpace. Et donc, il faut que l'on saisisse cet espace pour partager nos expériences, dit Celia Lerman. Gonzalo, vous voulez prendre la parole? Ah non, Raimundo me demande la parole. Celia Lerman continue. On a deux questions du public et puis une question à distance. Une personne non identifiée prend la parole. On suppose que c'est Raimundo. D'abord, je voulais dire que j'ai dû collaborer avec le gouvernement chilien dans la négociation sur le côté des télécommunications non quant au non-domaine. Et j'ai dû faire la même tâche pour certains pays de l'Amérique centrale pour leur traité de télécommunications. Et mon expérience dans ces cas était que les personnes qui négociaient pour les États-Unis avaient des ordres de ne pas faire des concessions. Ils ne savaient pas pourquoi. On ne leur avait même pas expliqué pourquoi. Donc, si on veut négocier, il faudrait que l'on négocie les quotas de maïs, de poisson ou quoi que ce soit, mais qu'il y avait des points qu'ils ne pouvaient pas discuter. Donc, la recommandation que nous leur avons fait avec les gens qui coopéraient à l'époque pour le traité du Chili et puis avec le Salvador et d'autres pays de l'Amérique centrale, était de négocier les délais. Et les personnes qui négociaient étaient très ouvertes quant aux délais. Ils pouvaient établir des délais de 12 ans, par exemple. Et on a gagné du temps par cela. Maintenant, mon deuxième commentaire porte sur le TPA. Et le nouveau ministre d'Affaires étrangères a présenté une thèse intéressante il y a peu de temps. Il disait qu'il n'y avait pas de Pacifique sans Atlantique. Et pour certains pays, y compris les États-Unis, qui ont des côtes sur les deux océans, c'est très important. Et c'était très bien reçu par le Mexique, qui ont déjà créé une tendance où l'Argentine, le Brésil devraient participer aux négociations. Une personne non identifiée prend la parole. J'ai une histoire à ce sujet qui est très intéressante. J'ai bien apprécié votre remarque. Et le représentant du département de commerce des États-Unis, le US Trade Representative, c'est l'entité qui négocie au nom du gouvernement des États-Unis, est une entité un peu étrange. Il y a peu de temps, j'ai eu une expérience avec eux parce que j'étais en train de travailler sur un conseil avec l'OMPI. Et comme partie du travail, les termes du contrat ont été rédigés par les États membres. Et les États-Unis ont dit, en premier lieu, qu'ils ne pouvaient pas faire des recommandations. Donc l'étude devait être complètement descriptive. Et puis, ils disaient qu'ils ne pouvaient même pas faire mention des États-Unis. Ce qui était intéressant est que pendant la présentation, je ne les ai pas mentionnés dans le rapport, mais j'ai dit qu'il s'agissait des conclusions de mon étude et ce qui vient d'arriver que la Maison Blanche est en train de faire ce que j'aurais recommandé. Donc, suivant les politiques de cette entité qui, des fois, n'a rien à voir avec ce que fait le gouvernement, ils ont créé une politique qui s'opposait aux intérêts même de ce que le gouvernement était en train de faire. Et donc, c'est très intéressant. Je pense que cela est dû au fait qu'il s'agit d'une entité qui répond aux intérêts commerciaux ou aux intérêts nationaux du peuple des États-Unis. Célia Lerman. On va répondre à une dernière question. Je m'excuse avec le reste des intervenants, mais on n'a pas le temps. C'est une question de Damien Fossi qui demande, il vient de Caracas, au Venezuela, et dit qu'il trouve curieux que l'on parle des accords de libre-échange comme ACTA TPP alors qu'il y a des accords comme ALCA, ALBA et CELAC. Pourquoi ne tient pas-t-on compte de ces traités? Bon, dans ce cas, c'est Célia Lerman qui parle, on se centre sur les politiques de l'Internet. C'était la façon dont on a défini ce qu'on allait discuter aujourd'hui parce qu'il s'agissait d'une réunion de l'ICANN. Mais comme Carlos disait, on pourrait très bien conclure des accords qui nous bénéficient en tant que région, mais c'est un bon point de départ pour notre stratégie et pour échanger des expériences. Merci.
Bueno, muchas gracias, Celia.
Merci, Celia. On n'a plus de temps pour d'autres questions. Une autre personne prend la parole. Je vous remercie d'avoir participé. Je pense que c'était un sujet qui a très bien été élu. Il y a eu beaucoup de participation de tout le monde et je vous en remercie. Il faudrait qu'on pense, si vous voulez, que l'on continue de discuter cela. On pourrait le prévoir pour Los Angeles. On a toujours notre espace. Et c'était un espace principal ici. Bien sûr qu'on peut rester et bavarder à la fin de cette séance, mais on a deux autres blocs dans cet espace. D'une part, pour discuter de processus très importants sur la gouvernance de l'Internet dans la région. D'une part, on a le LAC FCI, le LAC IGF, à venir au Salvador, et le FCI des Caraïbes. Et on a notre amie Bernadette Louise qui est là. On vous remercie d'être venu et je vais lui demander de nous parler du processus qui mène et comment ils organisent le forum de gouvernance de l'Internet aux Caraïbes.
Merci beaucoup, Rodrigo. Bien. En attendant donc que cette personne revienne, je veux vous dire que les discussions précédentes ont été très très intéressantes et ça ouvre vraiment de nouveaux horizons pour notre réflexion. Donc vraiment c'était une présentation très intéressante et je pense que oui, nous avons besoin de collaborer à travers donc la région de l'Amérique latine et des Caraïbes. Je suis Bernadette Latlouz, je suis secrétaire générale de l'Union de télécommunications et c'est une organisation intergouvernementale. Nous avons 20 pays membres. Cette organisation a été établie en 1989 par CARICOM et ça devait être donc le conseiller politique pour aider dans la formulation et l'harmonisation de politiques au niveau de la région. Donc, en premier lieu, il s'agissait d'harmoniser des politiques. Mais en 1993, nous avons étendu ce mandat pour travailler sur l'internance, sur la gouvernance de l'Internet. Et ensuite, en 2003, nous avons reconnu que le gouvernement ne pouvait pas faire ce travail tout seul. Et nous avons étendu l'affiliation pour inclure le secteur privé, la société civile et des secteurs qui n'appartenaient pas au gouvernement. Et nous avons créé ainsi, de cette manière, un forum multipartite. Et nous avons, à travers notre travail, nous avons travaillé de manière multipartite depuis cette époque et nous avons créé une plateforme multipartite très efficace. Donc ensuite, nous avons suivi les délibérations du SMSI. On nous a demandé, la communauté caribéenne nous a demandé de tenir compte de la gouvernance de l'Internet pour la région. Donc, notre mandat est d'harmoniser les formulations de politique, le développement de compétences, harmoniser les systèmes et les processus de TIC dans la région. Nous essayons aussi de représenter la région au niveau des différents forums
dans le domaine de l'industrie d'éthique aussi. Nous essayons d'analyser ce qui se fait au niveau gouvernemental et autres. Nous avons 20 pays membres, donc, et nous avons une série d'autres organisations qui participent au travail du CTU. En 2005, nous avons établi le Forum de gouvernance Internet des Caraïbes. C'était un forum multipartite. C'était une réponse à la demande de la communauté des Caraïbes. Et nous avons donc réuni tout le monde, toutes les personnes qui nous paraissaient concernées. Donc, ça a été vraiment une première réunion très, très intéressante. La première réunion a eu lieu en août 2005 et tout le monde était là. On ne savait pas grand-chose concernant la gouvernance de l'Internet. Et ça a été vraiment une discussion préliminaire qui a été très intéressante. On a commencé aussi à travailler en ligne avec un forum de gouvernance Internet. Et donc, le résultat de cette première, deuxième, de ces premières, deuxième et troisième réunions et de forum sur la gouvernance de l'Internet, nous avons établi un cadre harmonisé de politique qui allait diriger le travail de la gouvernance de l'Internet à partir de là dans le futur. Cela a été facilité par l'Union des télécommunications caribéennes et je dois dire que ce forum de gouvernance de l'Internet des Caraïbes a été très, très original, était un forum très original au niveau du monde entier. Et nous allons avoir maintenant notre forum au mois d'août aux Bahamas. Et une chose qui a été très importante, c'est la grande quantité de choses qui ont été comprises. Il y avait, d'abord, il fallait comprendre la gouvernance de l'Internet. Qu'est-ce que c'était? C'est une question multifacétique. Et donc, une partie du cadre de la politique aussi a identifié une sensibilisation basée sur l'éducation qui devait être une partie importante de notre travail. Et donc, on a mentionné le besoin d'éducation ici, cela a été dit, le besoin d'éduquer vos ministères des Affaires étrangères et vos diplomates. Eh bien, nous avons commencé tout de suite, nous avons fait de la sensibilisation auprès de nos ministères et de nos gouvernements, pas seulement les ministres ou le ministère d'éthique, mais aussi tout ce qui concerne la loi, le maintien de la loi, un grand groupe de parties prenantes, donc, parce que la gouvernance de l'Internet est quelque chose qui correspond à différents secteurs et il faut donc faire une sensibilisation qui va au-delà de nos clients et de nos unités constitutives habituelles. Donc, nous avons eu plusieurs réunions entre 2004 et 2014. Nous avons eu plusieurs forums. Nous avons fait des ateliers techniques sur la gouvernance de l'Internet, ateliers politiques aussi. Nous avons eu 16 symposiums et ateliers dans 14 pays des Caraïbes et nous avons conduit une série de travaux sur la gouvernance de l'Internet et d'éthique et nous avons donc montré une bonne capacité de travail. Aujourd'hui, notre roadshow a été tenu dans 18 pays. Nous avons donc visité déjà plusieurs reprises plusieurs de ces pays dans lesquels nous avons présenté ce roadshow. Et donc, c'est comme ça que la construction de la sensibilisation se fait. Il faut vraiment avoir une sensibilisation des différentes parties prenantes. Il faut parler dans une langue bien comprise, dans le contexte du travail et de l'activité de ces différentes parties prenantes dans le contexte de ce que ces gens font. Nous avons collaboré avec l'Amérique latine et les Caraïbes. En 2014, en 2011, nous avons eu le septième forum et le quatrième FGI de l'Amérique latine. Toujours en 2011. Je reconnais d'ailleurs beaucoup de gens qui étaient là à cette époque-là. En 2014, nous avons organisé la sixième édition de l'École du Sud sur la gouvernance de l'Internet. C'est une activité qui a été très bien reçue. Nous avons eu plus de 100 participants venant de 22 pays de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et bien sûr, dans la mesure où nous éduquons, nous augmentons la sensibilisation et dans ce domaine, on utilise la gouvernance, on parle de la gouvernance de l'Internet, mais
Beaucoup d'organisations qui étaient responsables de différents aspects de la gouvernance étaient là. Hein, et on a constaté que la participation des Caraïbes augmentait dans le temps. On a participé à l'OFGI mondial, on a des centres des plateformes régionales, on a participé à ARIN, à l'ACNIC, à ICANN, à ISOC. Hein. On a augmenté donc la sensibilisation et la participation de notre pays dans ces forums. Nous avons fait beaucoup de travail dans le domaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Nous avons fait 6 ateliers parce que nous reconnaissons que le monde change et que beaucoup des processus, beaucoup des structures et des cadres de travail du dernier siècle, du siècle dernier, ont été démantelés par l'évolution des technologies, etc. Et donc, nous avons encouragé l'innovation, l'entrepreneuriat. Nous avons soutenu des entrepreneurs. Nous avons créé à travers ce roadshow des Caraïbes un espace sur le marché pour donner donc du travail à ces gens, pour leur proposer donc une place. Nous avons facilité aussi l'établissement du groupe d'opérateurs de réseau des Caraïbes, le CaribNog, et pour des aspects qui travaillent sur des aspects techniques des TIC, et nous voulons leur permettre d'aller au-delà de la maintenance. Hein. Nous voulons leur demander d'expérimenter, de faire des expériences, d'augmenter le pouvoir des technologies qu'ils ont donc la responsabilité de maintenir. Nous avons bien sûr publié différents travaux, nous faisons de la recherche, nous avons publié des livres blancs sur X et IXP. Nous avons parlé de l'adoption d'IPv6, nous avons parlé du cadre de sécurité pour les Caraïbes et nous encourageons nos membres à utiliser les TIC de manière efficiente en tenant compte des agences de sécurité. Nous avons une responsabilité dans le domaine des risques et de la sécurité, donc nous avons aussi partagé et participé à l'aspect du cyberdélit et de la lutte contre ce cyberdélit. Je voudrais aussi insister sur l'importance du partenariat stratégique entre différents acteurs, parce que l'éthique permettent le développement d'une responsabilité collective. Hein. Ce n'est pas seulement le secteur d'éthique qui doit faire ce travail. Beaucoup de notre travail est exécuté à travers un partenariat ou par le biais d'un partenariat stratégique. Voilà les partenaires avec lesquels nous travaillons de manière routinière. Il y a énormément de travail, c'est beaucoup trop pour une seule organisation et par conséquent, il faut collaborer. Et nous avons fait un partenariat stratégique avec une stratégie qui a été mise en œuvre pour nous permettre de donc réaliser, de mettre en œuvre notre mandat. Ici, vous voyez des collaborateurs avec lesquels nous travaillons. Hein, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail pour tout le monde. Il n'y a aucune raison de se disputer. Hein. Et à mesure qu'on avance, il y a de plus en plus de travail. Alors maintenant, les résultats. Je vais vous donner une petite idée des activités que nous avons mises en œuvre depuis 2005, depuis 10 ans. Vous voyez d'abord une grande sensibilité et une compréhension des problèmes concernant la gouvernance de l'Internet. Nos membres participent au GAC. C'est le résultat de cette sensibilisation que nous avons faite. Nous voulons aussi renforcer l'expertise technique. Lorsqu'on participe pour la première fois à ce type de réunion, on a vraiment l'impression d'être dans un tourbillon de données. Hein. Donc, nous encourageons nos parties prenantes et nos participants. Nous les aidons pour qu'ils donc augmentent leur expertise technique. Je constate qu'il y a davantage de participation dans tout ce qui est donc l'éthique, les activités régionales, internationales, au niveau global. Et nous sommes très heureux de voir aussi que nous avons des points d'échange d'accès d'Internet et que ces points sont en train de... Le nombre de ces points sont en train d'augmenter. Donc, et ces points d'échange ont été établis. grâce au travail du CTU et grâce au travail du Forum de la gouvernance de l'Internet et de nos partenaires stratégiques, bien sûr. Nous continuons à travailler et pour soutenir nos innovateurs des Caraïbes. Nous avons vu des jeunes qui faisaient de très, très bons travail grâce à la préparation qu'ils avaient eue à travers les forums de gouvernance Internet, etc. Notre prochaine étape va être de finaliser la deuxième édition de notre cadre de politique de gouvernance Internet des Caraïbes. D'abord, nous voulons nous focaliser sur 5 secteurs stratégiques, l'infrastructure logique, physique, création de contenu, prise de conscience. Nous avons travaillé dans tous ces secteurs. Et le prochain point qui va être conclu au mois d'août lors du 10e forum d'Internet des Caraïbes, qui a été organisé par le secteur de sécurité et de confidentialité, ou qui s'occupe des thèmes de confidentialité de notre région, parce que la communauté a contribué au développement de ces cadres de politique. Et le CTU facilite la mise en œuvre de ces résultats en réunissant les différentes parties prenantes. Autre chose que nous voulons lancer, c'est donc la construction d'une valeur pour les fournisseurs de services Internet. C'est très bien. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, nous avons un programme qui va être lancé au mois d'août pour mobiliser la communauté locale, pour augmenter l'adoption d'IPv6 et du DNSSEC aussi. Et nous allons mobiliser des communautés d'utilisateurs d'Internet au niveau national. Jusqu'à maintenant, nous avons travaillé au niveau régional. Et maintenant, nous voulons passer au travail pays par pays. Nous avons 20 pays membres. Nous voulons créer nous voulons que la communauté des utilisateurs d'Internet participe davantage au dialogue. Ensuite, comme je l'ai dit, il y a de nouveaux modèles commerciaux pour l'économie sur l'Internet. Donc, nous devons éliminer certaines étapes. Nous devons créer un environnement qui soit approprié. Donc, nous avons fait beaucoup de sensibilisation concernant les modèles de business de l'économie d'Internet. Dans les Caraïbes, vous allez trouver 80% de l'économie est centré sur les PME et donc nous devons les aider à utiliser l'Internet de manière efficiente. Donc tout ce qui concerne les TIC, les compagnies qui travaillent dans le domaine des TIC. Il nous faut aussi renforcer la question des CCTLD. Et là, dans ce domaine, nous avons besoin d'ICANN. Et nous avons fait beaucoup de recherches concernant la création de contenu, les initiatives liées à la création de contenu pour avoir un contenu lié aux Caraïbes ou concernant les Caraïbes. C'est très, très important pour soutenir les innovateurs. Et finalement, quelques réflexions finales. Nous devons d'abord modifier les mentalités. Je pense que c'est le défi qui nous attend. Nous devons surtout de notre perspective gouvernementale. Il y a des changements qui ont eu lieu dans le monde, on ne peut pas le nier. Si l'on ne répond pas de manière appropriée à ces changements, on se retrouvera à la traîne. Et donc, il s'agit maintenant de changer les mentalités. Nous devons aussi faire participer toutes les diverses parties prenantes. Je pense que la diversité est très importante. Le fait d'avoir des visions diverses nous aide beaucoup à trouver des solutions plus appropriées. Et nous devons donc avoir adopté une responsabilité collective. Nous devons faire des recherches. Il faut s'assurer qu'on a les données nécessaires, qu'on a les preuves nécessaires pour nos politiques. Sinon, les choses ne vont pas fonctionner correctement. Il faut ensuite éduquer les parties prenantes. Les éduquer au niveau du gouvernement, mais jusqu'au bas de l'échelle, il faut le faire. Si les gens doivent agir de manière efficace et de manière durable, avec les bénéfices que cela signifie, il faut faire des plans réalistes. Lorsque l'on a commencé, on reconnaissait que les choses étaient vraiment que nous n'étions pas bien équipés, que nous n'avions pas la compétence pour aborder certaines choses. Donc, nous avons essayé de voir dans quelle mesure nous pouvions faire une différence. Nous avons en même temps fait de la formation de compétences, puis nous avons exécuté, nous avons fait des plans. Parce que faire des plans, c'est bien beau, mais ça ne sert à rien si l'on n'a pas la possibilité d'agir, si l'on n'a pas la compétence d'agir et d'exécuter ces plans. Et à long terme, hein, l'exécution des plans est quelque chose qui... Je dirais que le Forum de gouvernance de l'Internet des Caraïbes a vraiment démontré qu'on peut faire beaucoup de choses avec très peu. Hein. Si l'on réfléchit correctement, on peut avoir un impact important. Mais je pense que ce que nous avons accompli au cours de ces 10 dernières années est visible à l'œil nu. Hein. Donc, on voit qu'on peut faire peu de choses, qu'on peut faire beaucoup de choses avec pas grand-chose. Voilà. Bien. Donc voilà, je vous ai donné une petite idée de l'endroit où nous nous trouvons actuellement en ce qui concerne notre forum de la gouvernance d'Internet au niveau des Caraïbes. Merci beaucoup. Bernadette, merci beaucoup. Bernadette, cette présentation a été très, très intéressante. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans ce processus vécu par les Caraïbes et dans le partage d'expériences. Hein. Je dirais que vos dernières réflexions pourraient être une grande inspiration pour nous tous et qu'on est tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Je voudrais qu'on écoute maintenant Fatima pour qu'elle nous parle de l'expérience de l'AQI-GF et ensuite on va poser quelques questions à Bernadette et à Fatima aussi. Bien, merci beaucoup Rodrigo. Merci de m'avoir invité. Je vais vous parler un petit peu de ce que fait le LAQI-GF. Vous nous connaissez, je pense. Je vois beaucoup de têtes connues. Nous sommes le Forum de gouvernance d'Internet de l'Amérique latine et des Caraïbes. Nous préparons le Forum de gouvernance de l'Internet global. Cette année, il aura lieu au Salvador entre le 16 et le 18 juillet et dans la ville de Salvador. Et cette année, nous travaillons avec Connexion de Salvador. Ils sont ici, je pense. Et je veux vous raconter un petit peu le processus, comment fonctionne notre organisation dans la région. Et cet événement a eu lieu pour la première fois en 2008 à Montevideo. Et les trois organisateurs locaux étaient l'ACNIC, le registre régional de l'Internet des Caraïbes de l'Amérique latine, l'Association pour le progrès des télécommunications. Et en 2008, nous avons évolué nous avons créé le comité de programme qui s'occupe d'organiser le LAQI-GF. Jusqu'en 2014, nous avons un comité de programme multipartite formé par plusieurs représentants de chacune des parties prenantes. Nous avons donc un représentant d'ICANN et de ALAC au sein de la communauté technique. Et nous avons des représentants du secteur privé, des gouvernements comme l'Argentine et le Brésil qui appartenaient déjà à cette organisation. Puis l'Uruguay et le Mexique se sont joints à nous. Et puis des organisations de la société civile comme l'APC, une organisation argentine à laquelle j'appartiens, ADC, Association des droits civils, des ONG de droit numérique du Chili, qui appartiennent aussi au comité de programmation. Et depuis 2012, l'ACNIC est devenu le secrétariat de l'AQI-GF. Ce qui est important dans cet organisme, c'est que c'est une organisation de la communauté pour la communauté. Ceux qui appartiennent au comité de programmation représentent tous les secteurs et toutes les personnes intéressées peuvent donc participer, contribuer, collaborer, venir nous voir et nous présenter donc leurs contributions, les améliorations qu'ils pensent nécessaires, etc. Les particularités de notre FGI régional, c'est que toutes les parties qui composent donc cette rencontre, hein, ces rencontres sont toujours organisées avec la communauté, en collaboration avec la communauté. L'ordre du jour est fait de manière collaborative. Et cette année, le comité de programmation a affronté un grand défi parce qu'il a voulu tenir compte du changement qui a eu lieu sur la scène globale et la réunion, tenir compte de la réunion de NED mondiale, tout en tenant compte des thèmes qui sont dans l'ordre du jour de l'FGI mondial. Donc, nous allons maintenant préparer l'ordre du jour définitif de cette réunion. Mais un des objectifs que nous avons pour cette prochaine réunion, c'est d'avoir construit un ordre du jour, un agenda régional avec des thèmes qui nous intéressent nous-mêmes, avec des thèmes qui nous concernent. Donc cet ordre du jour est déjà publié en espagnol. Vous pouvez le trouver sur la page de l'FGI. On a aussi donc déjà ouvert la page de l'AQIGF pour l'inscription. Vous pouvez vous inscrire donc pour participer à cette rencontre. Il y a deux activités aussi qui ont été ajoutées. La première, c'est un pré-webinaire qui a été organisé en collaboration avec ceux qui appartiennent au groupe de formation de compétences de MAG, de l'FGI mondial. Et dans notre région, nous allons avoir une réunion pré-FGI le 16 juillet. Nous allons la diffuser pour vous inviter, qui est destinée à ceux qui n'ont jamais participé à une réunion de ce type. Donc, nous allons vous expliquer de quoi il s'agit, qu'est-ce que l'FGI global ou mondial, comment participer, quelles sont les attentes des participants, qu'est-ce que l'on peut attendre de cette réunion, comment participer à cette réunion, comment contribuer. Et jusqu'à maintenant, je dirais que ça a été un espace de discussion pour toutes les parties prenantes. Et une des conséquences de la réunion de NET mondiale a été le renforcement du FGI et de l'AQIGF. Donc, on veut que ce soit davantage qu'un espace de discussion. On voudrait donc aborder tous ces thèmes. Et une autre particularité de cette rencontre, c'est que le 16 juillet, de 8h30 à 10h du matin, on va organiser une session d'orientation. On va vous demander de participer. On va demander de participer à ceux qui n'ont jamais participé, mais aussi à ceux qui ont une certaine expérience. S'il vous plaît, venez, racontez-nous en quoi consistait votre expérience, etc. Nous allons aussi diffuser la liste des boursiers, des personnes qui ont été sélectionnées pour participer à cette réunion. Nous espérons qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront donc dans cette liste. Je veux faire un appel ici à la solidarité. Nous avons reçu le soutien d'ICANN. Nous avons reçu le soutien de l'ACNIC, de l'ACTLD, de Google, de Telefonica, entre autres sponsors qui collaborent avec notre organisation pour nous permettre d'inviter davantage de gens comme boursiers à cette réunion. Donc, ceux qui veulent collaborer, venez nous voir, parce que vraiment, ce sera très utile d'avoir des boursiers et qui pourront participer donc gratuitement à ces réunions. Je pense que j'ai fini et je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci, Fatima. C'est l'heure. Gonzalo veut faire une petite réflexion, un commentaire, question. Gonzalo Navarro, bien, très brièvement. Je suis membre du conseil d'administration. Je suis membre du Chili aussi. Où je viens du Chili. Bernadette, j'ai une question à vous poser. Fatima, merci beaucoup pour votre présentation. Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Je pense que ensuite, lors de la prochaine réunion d'ICANN, on aura l'occasion de les poser. Mais vous avez mentionné, vous avez dit que créer des mesures concrètes était quelque chose de très important. Ça avait été un de vos objectifs. Et l'un des objectifs de votre organisation des Caraïbes et de l'organisation du FGI aux Caraïbes. Je voudrais savoir comment vous avez créé cette sensibilisation au niveau de la région des Caraïbes concernant les thèmes de gouvernance de l'Internet. Et j'aimerais savoir quelles sont les mesures concrètes que vous avez pu mettre en œuvre. Et si vous êtes parvenu à identifier des manières d'augmenter la prise de conscience dans le domaine donc de la question de la gouvernance de l'Internet. Merci beaucoup. Bernadette prend la parole. Nous avons une série de mécanismes pour donc l'augmentation de la prise de conscience. D'abord, nous avons ce roadshow de TIC dans les Caraïbes. Et notre objectif est de toucher le plus grand nombre de citoyens des Caraïbes dans certains pays. Hein? Nous savons que c'est un événement important et par conséquent, avant de l'organiser, nous visitons le pays, nous essayons de comprendre l'environnement, où est-ce qu'ils en sont au niveau de la libéralisation, comment et quelle est la pénétration que l'on doit avoir dans cet environnement. On fait une étude. Hein. Ensuite, on élabore un programme pour cibler donc les secteurs, les domaines qui ont été identifiés dans la communauté. C'est très important. Une chose que nous avons constatée, c'est que lorsqu'on a fait le premier roadshow, c'était donc un roadshow qui parlait d'éthique et qui était destiné seulement au secteur d'éthique. Mais non, c'est pas cela qu'il nous faut. Il nous faut toucher davantage les parties prenantes, les différentes parties prenantes. Le secteur, par exemple, on est allé voir le secteur de l'agriculture, on est allé voir les gens qui sont concernés par le maintien de l'ordre, les services de l'ordre, les personnes et la communauté en général, les personnes qui normalement ne sont pas incluses hein, dans ce type de réunion. Hein. Donc, essayez d'aller voir ces gens-là et de les guider dans la bonne direction pour qu'ils puissent d'eux-mêmes ensuite avancer dans ce sens-là et avancer dans la bonne direction. Comme je vous l'ai dit, nous voulons une audience diversifiée. Hein. Donc, chaque pays a sa propre culture. On essaye de travailler avec la communauté locale pour essayer de voir de quel type de formation ils ont besoin. Un autre point important, c'est que on ne fait pas grand-chose si les ministres ne comprennent pas l'importance de tout cela. Donc, notre approche de sensibilisation au niveau ministériel a été quelque chose qui a été très important. On a expliqué l'importance d'éthique, on a parlé de l'implication pour les politiques, pour les législations, pour les réglementations, hein, l'impact de la technologie sur le développement national. On leur a parlé de tout cela et on a ciblé ensuite notre audience, on a adapté différents messages à notre audience hein, pour voir ce dont ils avaient besoin en fonction de chaque contexte. Voilà, c'est ce que nous avons fait. Merci beaucoup Bernadette, merci à tous. Nous devons conclure cette session. Merci beaucoup Célia, merci à tous nos orateurs pour leur présence et nous vous remercions.